Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 25 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Côte d'Ivoire, les États-Unis appellent à une enquête sur les morts enregistrées lors des manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Lors d'une visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Khartoum, le Soudan a écarté une reconnaissance d'Israël avant des élections en 2022. Le gouvernement congolais a annoncé la fin de l'épidémie de rougeole qui a fait plus de 7000 morts en 2 ans, des enfants de moins de 5 ans. Deuxième jour de convention nationale républicaine ce mardi, au lendemain de l'investiture du président Donald Trump pour briguer un second mandat. Covid-19, une personne à Hong Kong identifiée comme premier cas a contracté le virus 2 fois. L'ONU appelle à davantage de coopération entre les États. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, les États-Unis appellent à une enquête sur les morts enregistrées lors des manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Le point avec Eddie Isango.
Washington exhorte les autorités ivoiriennes à enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations en contestation contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Selon l'ambassade américaine à Abidjan qui relaye la position de l'administration Trump sur son site internet, les autorités américaines attendent aussi que les résultats des dites enquêtes soient rendus publics. Pour Washington, la répression et l'intimidation n'ont pas de place en démocratie. Des émeutes avaient éclaté à Abidjan et dans d'autres endroits en Côte d'Ivoire après l'annonce le 6 août par M. Ouattara de sa candidature pour un troisième mandat, forcé a-t-il expliqué par les décès brusques du candidat de son camp, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les États-Unis estiment qu'il revient au Conseil constitutionnel ivoirien de trancher la question du troisième mandat. Il souligne que les transitions des pouvoirs démocratiques régulières mènent entre autres à plus de rédivabilité.
L'avocate de Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la CPI a accusé les autorités ivoiriennes de ne pas vouloir délivrer de passeport à l'ex-président pour empêcher son retour avant la présidentielle. Maître Habiba Touré s'est rendu ce mardi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. En juillet, le gouvernement avait assuré qu'il recevrait ses documents après le traitement. Au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé en pleine classe 7 élèves et leur enseignante dans un village de l'état de Kaduna. Les assaillants avaient pris place à 2 ou 3 sur une 20aine de motos pour envahir dans Bakassaya lundi matin en tirant en l'air. Ils sont entrés dans l'école de Prince Academy où les lycéens préparaient leurs examens de fin d'études et ont enlevé 7 élèves et la professeure selon des témoins. Des milliers de Libériennes ont protesté à Monrovia contre l'inaction du gouvernement face à la recrudescence des viols. Des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes en ce début de mobilisation de 3 jours. Une ONG des droits humains indique que plus de 600 cas ont été enregistrés entre juin et août. Un rapport de 2016 des Nations Unies dénonçait l'absence de sanctions contre les auteurs. Plusieurs quartiers de Niamey sont sous les eaux. Ces crues sont favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. Des habitations ont été détruites, des digues de protection dépassées et des rizières et maraîchers submergés. Le gouvernement a sommé les populations se trouvant le long du parcours des eaux à évacuer ces zones et à mettre leurs biens à l'abri. Jusqu'ici, les inondations ont fait 38 morts et plus de 150 000 sinistrés. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour. Il n'y aura pas de normalisation avec Israël avant la fin de la transition au Soudan, a fait savoir le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok au secrétaire d'État américain Mike Pompeo en visite à Khartoum. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La phase de transition au Soudan est dirigée par une large coalition avec un agenda spécifique visant à achever le processus de transition prévu en 2022 et à instaurer la paix et la stabilité dans le pays jusqu'aux élections libres. Le gouvernement de transition n'a pas de mandat au-delà de ses tâches pour décider de la normalisation avec Israël, a déclaré Abdallah Hamdok, premier ministre soudanais, cité par le porte-parole du gouvernement. Il a insisté auprès de l'administration américaine sur, je cite, « la nécessité de dissocier la sortie du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme de la question de la normalisation avec Israël ». Avant l'arrivée de M. Pompeo à Khartoum, la coalition des partis et organisations de la société civile qui a dirigé la contestation ayant renversé Omar el-Béchir a soutenu que le gouvernement n'a pas de mandat pour normaliser les relations entre le Soudan et Israël. Le communiqué des forces de la liberté et du changement a par ailleurs mentionné, je cite, « le droit des Palestiniens à leur terre et à une vie libre et digne ».
Le ministre congolais de la Santé a déclaré à Kinshasa la fin de l'épidémie de rougeole. Plus de 7000 enfants de moins de 5 ans sont morts de cette maladie en 2 ans dans le pays. Depuis un mois, on peut dire que la rougeole n'existe plus en RDC, a estimé Eteni Longondo. L'épidémie de rougeole évoluait à bas bruit, mais était la plus meurtrière, ajoutait le ministre, précisant que les vaccinations de routine vont continuer. La RDC doit lutter également contre l'épidémie de Covid-19 qui a fait 251 morts sur près de 10 000 cas enregistrés depuis le 10 mars. Le pic est déjà passé, a affirmé le docteur Longondo, avec 10 à 40 nouvelles contaminations par jour contre 180 au premier trimestre de la pandémie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Convention nationale républicaine se poursuit ici aux États-Unis après l'investiture lundi du président Donald Trump pour briguer un deuxième mandat. Son épouse, Melania, et deux de ses enfants prennent la parole ce mardi. Abdourahmane Dia.
Si Donald Trump Jr., le fils aîné du président qui s'est exprimé hier, a adopté un ton plus combatif et politique, les discours de Melania et de Tiffany Trump pourraient mettre l'accent sur le côté familial du chef de l'exécutif. Quant à Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain en tournée internationale, il prononcera un discours dans lequel il défendra le bilan de l'administration Trump sur le plan diplomatique. Hier, la plupart des intervenants ont attaqué l'agenda des démocrates, le qualifiant de dangereux pour l'avenir des États-Unis. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a rejeté l'idée que le Parti républicain est un parti anti-immigration, évoquant l'histoire de sa propre famille originaire de l'Inde. Le président Trump, qui prendra la parole chaque soir pendant les 4 jours de la convention, a évoqué hier la possible mort du rêve américain si Joe Biden l'emportait en novembre. Les démocrates rejettent cette allégation et accusent les républicains de jouer sur la peur des électeurs.
L'OMS a enregistré un ralentissement de l'épidémie de Covid-19, en particulier sur le continent américain. Elle note une diminution de 5% des cas et de 12% des décès par rapport à la semaine précédente dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Asie, du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Salwa Jafari nous en dit plus.
Plus de 813 700 morts dans le monde à ce jour depuis fin décembre. Le nombre de cas frôle les 23 700 000. Les États-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, selon le décompte de l'université Johns Hopkins. En Afrique, l'OMS parle d'un peu plus d'un million de cas Covid plus en ce mardi 25 août. L'Afrique du Sud conserve la première place du peloton. Autre volet, celui de la réinfection au Covid. L'organisation dit qu'il est important de noter que la réinfection au Covid-19 ne semble pas être un événement régulier. La question a été soulevée sur la durabilité de l'immunité après qu'une personne à Hong Kong a été identifiée comme étant le premier cas confirmé au monde à contracter le virus 2 fois. Écoutons le docteur Margaret Harris, elle est porte-parole de l'OMS.
It's really important to understand L'autre chose importante à noter est que les chiffres sont très très faibles. Il s'agit donc d'un cas sur plus de 23 millions et nous verrons probablement d'autres cas documentés, mais cela ne semble pas être un événement régulier. Nous aurions vu beaucoup plus de cas.
Le docteur Harris souligne également que la protection immunitaire naturelle est différente que celle prodiguée par un vaccin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a finalement rouvert ses guichets au Mali ce mardi, rapporte Financial Afrique. Les banques ont accès à la compense depuis ce matin, informe une source interne de l'institution. Cette ouverture marque le retour du Mali dans la normalité bancaire après la décision momentanée de la BCAO de suspendre ses opérations pour sécuriser son personnel et les valeurs. Au Cameroun, le Bureau national de mise à niveau des entreprises sollicite 65 milliards de francs CFA pour assister 600 entreprises industrielles entre 2021 et 2023. Le dit bureau attend que le gouvernement valide ce plan stratégique triennal. À en croire Investir au Cameroun, l'État devrait aussi définitivement octroyer un statut juridique à l'institution afin de lui permettre de se déployer avec plus d'efficacité et de compétitivité sur le marché des entreprises et de l'économie camerounaise. Pour terminer, la RDC a accordé aux sociétés minières une dérogation indéfinie à l'interdiction d'exportation d'hydroxyde et de carbonate de cobalt, ainsi que de concentré d'étain, de tungstène et de tantale. Celle du concentré de cuivre reste à déterminer. Le Congo, premier producteur mondial de cobalt et plus grand producteur de cuivre d'Afrique, a interdit l'exportation de concentrés de cuivre et de cobalt en 2013 pour encourager les mineurs à transformer et raffiner le minerai dans le pays. Mais les autorités émettaient des dérogations, dont la plus récente devrait expirer samedi.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La commission électorale de la Fédération ivoirienne de football se réunit ce mardi pour étudier les candidatures des trois prétendants à la présidence de la FIFA. Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo sont en lice hier après le courrier de la FIFA demandant le maintien de la commission électorale précédemment suspendue par la Fédération ivoirienne de football. Cette dernière s'est réunie en comité exécutif d'urgence. La FIFA a ensuite annoncé, je cite, « le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci » en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision. Pour rappel, le processus de validation des candidatures par la commission électorale avait été bloqué par le secrétaire général de la commission qui a dénoncé des irrégularités et refusé de signer les documents. L'élection est prévue pour le 5 septembre. Le Ballon d'Or 2005, Ronaldinho et son frère ont été remis en liberté. Ils étaient détenus au Paraguay depuis plus de 5 mois pour usage de faux documents officiels. Ronaldo de Assis Moreira dit Ronaldinho est libre de voyager dans le pays du monde qui lui plaira, mais il devra faire savoir s'il change d'adresse permanente pendant une période d'un an, a déclaré le magistrat lors de l'audience qui a duré 3 heures et a été retransmise en direct à la télévision. Le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho d'une amende de 90 000 dollars pour dommages à la société. Procès également ce mardi du capitaine de Manchester United, Harry Maguire, à la cour criminelle de l'île grecque de Syros. Le défenseur international anglais n'est pas présent et est représenté par ses avocats. Maguire avait été arrêté la semaine dernière en Grèce où il passait ses vacances suite à une bagarre avec des touristes et une agression contre des policiers en compagnie de son frère et d'un ami. Il avait été présenté devant le procureur de Syros samedi où il a été inculpé, je cite, de résistance contre les autorités, lésions corporelles, insultes et tentatives de soudoyer un employé. Ici, en NBA, lundi était le Kobe Bryant Day et les Lakers l'ont célébré avec la manière en étriant les Blazers 135-115 pour mener 3-1 dans leur duel du premier tour des playoffs. De leur côté, les Bucks de Milwaukee ont dû mettre toute leur ardeur à l'image de leur MVP Gianni Antetokounmpo, 31 points, pour venir à bout du Magic d'Orlando 121-106. Le Thunder d'Oklahoma City a rétabli l'équilibre à 2-2 grâce à sa victoire 117-114 devant les Rockets de Houston. Le Heat de Miami a conclu sa série parfaite aux dépens des Pacers d'Indiana avec une quatrième victoire 97-87.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Niger, les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont entraîné une montée considérable du niveau des eaux du fleuve. À Niamey, la capitale, c'est le qui-vive dans les quartiers qu'il traverse. Un reportage de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La situation était si alarmante que le Premier ministre Brigitte Raffini est descendu sur le terrain. Presque tous les quartiers riverains du fleuve à Niamey sont menacés par les eaux.
C'est un peu difficile à regarder certaines situations. Nous croyions, moi j'étais de ceux qui croyaient que Niamey était vraiment avec tout ce qu'on a fait, tous les travaux que nous avons réalisés sur ce fleuve, nous avons pensé que Niamey était à l'abri des inondations. Mais voilà que tous ces constats ou toutes ces hypothèses sont démenties. On doit faire d'autres efforts encore pour protéger certaines zones de Niamey, certains quartiers de Niamey. Nous avons vu comment le fleuve a abandonné son lit. Les eaux sont en train de remonter vers des quartiers. Les quartiers Kirkisoy et autres sont très menacés. D'autres sont sous l'eau déjà. Et donc nous sommes en train de voir comment on peut secourir les populations. C'est la première des choses. Dont les maisons sont tombées. Il y en a qui dont les maisons sont sous l'eau actuellement. Et là, vraiment, j'avoue que les populations sont en train de vivre un moment difficile. Mais nous sommes venus leur remonter le moral. Nous allons les aider à trouver des abris. Nous allons les aider, les assister à avoir de l'assistance alimentaire. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant dans l'immédiat. Mais sur le plan infrastructure, nous avons beaucoup à faire encore.
Les évaluations sont en cours par les services de protection civile. Ils demandent également aux populations d'évacuer les zones car la menace sera plus grande les jours à venir.
Les prévisions hydrométéorologiques prévoient d'importantes précipitations sur les prochaines 72 heures sur le bassin du fleuve Niger. À cet effet, les populations se trouvant le long du parcours de la Sirba, du Dargol, du Gourol et du fleuve Niger, notamment dans les départements de Ayourou, Kilaberi, Bankilare, Tera, Gorté, Saï, Falmey, Dosso et Gaya, et à Niamey sont invités à évacuer le lit de ces cours d'eau. Il leur est fortement conseillé de suspendre les activités de riziculture dans les zones inondées et de rester informés.
Le dernier bilan des inondations annoncées par les autorités remonte au 14 août dernier. Il faisait cas de 32 décès et de plus de 10 000 sinistrés. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'OMS certifie ce mardi que l'Afrique est désormais exempte du poliovirus sauvage. Cette certification survient 4 ans après le dernier cas au Nigeria, qui fut l'épicentre mondial de la maladie au début des années 2000. Dans ce pays, certains survivants s'organisent dans le domaine du sport pour surmonter les séquelles de la maladie. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja. Le récit est de Mouamadou Oumfa.
Malade de polio pendant son enfance, Mishabu Lawandidi a survécu, mais ses deux jambes sont depuis paralysées. Ne pouvant pratiquer ses sports préférés avec les personnes valides, il a fondé le Parasoccer en 1988 pour les survivants de la polio. Peu de temps après, l'association nigériane des survivants de la polio a été créée. Des survivants comme Lawan se sont servis de leur propre histoire pour faire connaître la polio au grand public.
Many people are rejecting polio based on what they believe.
De nombreuses personnes rejetaient le traitement sur base de ce qu'elles croyaient. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une manipulation occidentale pour réduire le nombre de Nigérians. Tout le monde avait ses propres croyances et le gouvernement avait souvent rencontré des difficultés pour atteindre certaines personnes, dont celles qui avaient décidé de ne pas se faire vacciner oralement contre la polio.
Le parasoccer, lancé par la WAN, est maintenant un sport national, avec un tournoi majeur organisé chaque octobre pour marquer la journée mondiale de la polio. Le parasoccer a même déjà des vedettes comme Bello Abdoulaye.
J'aime beaucoup le parasoccer. C'est un jeu auquel je joue régulièrement. J'ai joué le parasoccer en 1997 à Lagos et maintenant... Je suis
une stars. Le Nigérien n'a plus enregistré le moindre cas de poliovirus sauvage depuis 3 ans. C'était le dernier pays africain affecté par la maladie. Les derniers cas dans ce pays remontent à 2016 dans la région de Borno en proie à des attaques terroristes. Faisal Chouab de l'Agence de développement des soins primaires.
Nous ne pouvions pas accéder aux enfants derrière les lignes ennemies. Lorsque les enfants ont commencé à sortir, il était devenu évident qu'il y avait encore des transmissions à Borno autour de la région du lac Tchad. À cause de l'insurrection de Boko Haram, de nombreuses communautés n'étaient pas accessibles.
The Boko Haram insurgency, that is what created many communities that were inaccessible.
Même si le Nigeria a éradiqué la polio, les autorités appellent à la vigilance car la polio reste active dans d'autres pays. Faisal Chouab.
Tant que nous continuerons d'avoir deux pays endémiques, le Pakistan et l'Afghanistan, il y aura toujours ce potentiel d'importation du virus de la poliomyélite sauvage dans n'importe quel pays africain, au Nigeria pour ainsi dire. Donc, bien entendu, c'est un sujet d'inquiétude.
Les survivants de la polio appellent les autorités nigérianes à s'intéresser à leur situation. À en croire leur association, 40% des personnes handicapées dans le pays sont des survivants de la polio et la plupart vivent dans la pauvreté. En attendant le coup de pouce du gouvernement, des bénévoles comme Michabou Lawan essayent de leur donner de l'espoir.
Élection américaine 2020. Les Républicains poursuivent ce soir leur convention entamée hier à Charlotte, en Caroline du Nord, où ils ont unanimement nominé le président Donald Trump pour un second mandat. Dans un pays mis en difficulté par la pandémie de coronavirus et la récession, les intervenants de lundi soir ont prédit des jours plus sombres encore si jamais le candidat du Parti démocrate Joe Biden était élu. Un reportage de Mike O'Sullivan avec le récit de Lionel Gaïma.
Lors de cette convention, en partie enregistrée, en partie en direct, les délégués républicains venus de tous les États-Unis ont exprimé leur soutien au président Trump. Lee Senick, délégué du Rhode Island.
Nous, la plus grande petite délégation du Rhode Island, fièrement unie, plaçons nos 19 votes en faveur du président Donald Trump.
Hier soir, lorsque la tension s'est déplacée de Charlotte à Washington, les intervenants se sont succédés pour défendre la gestion par le président Trump de la pandémie et de l'économie. Tout comme lors de la convention démocrate, les Africains-Américains et Hispaniques ont joué un rôle de premier plan. Parmi eux, Nikki Haley, indienne-américaine et ancienne ambassadeur des États-Unis à l'ONU.
Les propriétaires noirs des petites entreprises qui ont vu l'œuvre de leur vie partir en fumée comptent. Les enfants noirs abattus sur les terrains de jeu, leur vie compte également.
Une vidéo a montré le président Trump à la Maison-Blanche en compagnie de travailleurs intervenant en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Citant ses réalisations, le chef de l'exécutif américain a rappelé la nomination des juges fédéraux conservateurs, chose que son adversaire démocrate Joe Biden ne ferait pas a-t-il souligné.
La gauche radicale demandera qu'il nomme des juges de gauche super radicaux, débridés, fous à la Cour suprême. Votre rêve américain mourrait.
Les démocrates accusent Trump de vouloir ralentir la distribution du courrier postal dans le but de favoriser sa réélection en supprimant le vote des électeurs susceptibles de voter pour Biden. Trump affirme que la promotion par les démocrates du vote par voie postale pourrait exposer l'élection à la fraude.
This is the greatest scam.
C'est la plus grande arnaque de l'histoire en politique, je pense, et cela va au-delà de notre pays. Et ils agissent comme s'ils étaient lésés.
Une allégation tournée en dérision par les démocrates. Ceux qui regardaient la convention républicaine à la télévision ont eu un rappel du mouvement Black Lives Matter à travers un couple venu de Saint-Louis et qui avait brandi des armes lorsqu'ils s'étaient sentis menacés par les manifestants. Patricia McCloskey, partisane de Trump.
Non content de propager la violence et le chaos dans nos communautés, ils veulent carrément abolir les banlieues.
Trump est dévancé par Biden dans la plupart des sondages d'opinion, mais l'issue du scrutin dépendra de qui remporte le plus de voix dans les États clés comme le Michigan. Rob Steele, délégué républicain du Michigan.
Je m'attends à ce qu'il remporte plus de voix dans le Michigan qu'il ne l'a fait la dernière fois. Vous savez, les politiques énergétiques, les politiques manufacturières, le nouvel accord commercial, toutes ces choses ont été massivement bénéfiques pour le Michigan, de même que le nord de la région du Midwest.
Les républicains aux trois autres nuits pour tenter de façonner le débat avant que la campagne électorale ne se lance dans toute son ampleur.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée et bon courage à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le président de longue date du Bélarus, Alexandre Loukachenko, qui occupe le plus haut poste électif du pays depuis 1994, a revendiqué un autre raz-de-marée à l'élection présidentielle ayant eu lieu le 9 août. Sa victoire avec 80% de suffrages est contestée par des centaines de milliers de citoyens bélarusses, dont beaucoup sont descendus dans la rue pour dénoncer des résultats qu'ils jugent falsifiés. Les forces du gouvernement sont immédiatement et brutalement intervenues contre les manifestations, frappant, arrêtant et détenant les protestataires, les journalistes et les leaders de l'opposition par milliers. Au moins 4 manifestants ont été tués. Après l'élection, 2 leaders de l'opposition bélarusse ont fui le pays, y compris la principale opposante Svetlana Tsikhanouskaya, qui a brigué la présidence après que son mari Sergei, blogueur politique, a été emprisonné et banni de la présidentielle. Les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes bélarusses. Plus de 100 000 protestataires se sont mobilisés à Minsk le 16 août, un nombre sans précédent en Bélarus. Certains des manifestants font partie de la campagne des femmes en blanc. Elles protestent contre la violente répression et réclament la libération de leurs proches détenus par la police. Ces femmes, habillées en blanc et tenant des fleurs, ont commencé à apparaître la semaine dernière à Minsk. Mais des manifestations similaires ont eu lieu en Allemagne, en Pologne, en Belgique, en Ukraine et en Russie. Il est clair, vu la réponse du peuple bélarusse aux élections contestées, et qu'il attend quelque chose qu'Alexandre Loukachenko n'a pas été en mesure de lui procurer en 2 décennies et demie de pouvoir. La communauté internationale a entendu l'appel du peuple bélarusse et se tient à ses côtés dans ses aspirations démocratiques. Les États-Unis, tout comme les leaders européens, ont exprimé leurs profondes préoccupations au sujet du déroulement de l'élection en Bélarus, relevant que celle-ci n'était ni libre ni équitable, de même qu'ils ont relevé la violente réponse du gouvernement aux manifestations subséquentes, l'apparent ciblage des journalistes, les sérieux abus de détenus, le blocage de l'Internet. Lors de sa récente visite en Pologne, le secrétaire d'État Mike Pompeo a dit « L'objectif commun est de soutenir le peuple bélarusse pour qu'il réalise sa souveraineté et sa liberté de concrétiser ce que vous voyez dans ces manifestations. Ces personnes demandent les simples choses que chaque être humain désire, le droit de déterminer soi-même la nature de son gouvernement. » Ainsi, nous exhortons les dirigeants du Bélarus à élargir le cercle, à dialoguer avec la société civile d'une manière reflétant les aspirations centrales du peuple bélarus.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.